en votre compagnie. J'ai le grand plaisir d'être en compagnie du docteur Bernard Marc. Docteur Bernard Marc, bonjour. Alors, ce n'est pas la première fois que vous venez dans ce studio.
Non, j'ai déjà eu le plaisir de vous rencontrer.
Oui, c'était pour parler essentiellement de vos activités de médecin légiste.
Absolument, le livre paru chez Mareuil, médecin légiste pour les morts et les vivants.
Oui, car rappelons-le, nous l'avions bien dit lors de cette émission, un médecin légiste ne fait pas que disséquer des cadavres, loin de là.
C'est exactement ça qu'on avait développé, et effectivement, c'est une large part du métier.
Peut-être même plus importante que l'autre.
Oui, bien sûr, quasiment.
Et c'est moins spectaculaire peut-être pour le grand public.
Moins spectaculaire, mais tellement concerné par toutes les violences, parce que les victimes sont multiples.
Oui, on parle beaucoup en ce moment de féminicide, d'ailleurs ça devient de plus en plus fréquent ce mot.
Ah, le mot devient de plus en plus fréquent, mais le nombre aussi, il augmente, oui. Il a augmenté de 2024 à 2025 notamment.
Alors là, nous allons parler de deux ouvrages, puisque vous en avez publié deux, de Sang et de Noirceur, ainsi que Le Sang, le Crime et le Pouvoir. Tous deux sont parus chez Emma Édition dans la collection SK. Et là, vous consacrez, on va parler beaucoup d'un de vos prédécesseurs très célèbres, le docteur Paul. Vous allez, on en avait parlé un petit peu d'ailleurs la fois précédente, mais peut-être pas suffisamment. Et si vous le voulez bien, on va commencer, ça ne vous dérange pas, de parler d'un ouvrage qu'on vous a attribué qui n'est pas à vous, qui n'est pas de vous. Dont, c'est très récent cette affaire, une affaire très récente.
Ah oui, un merveilleux ouvrage, deux merveilleux ouvrages d'ailleurs,
oui.
Splendidement attribués. Donc sans doute une envie de nous entendre parler des faits divers, et des faits divers anciens ou récents. Et heureusement, Richard Marley et moi-même, puisque nous étions
tous les
mis
deux
sur la sellette, avons fait dire de façon très nette que ces ouvrages-là n'avaient jamais pu exister. Donc, nous n'avons pas écrit sur le petit Grégory, nous n'avons pas écrit ni l'un ni l'autre sur le petit Émile.
Et vous n'en avez pas envie, certainement, non plus.
Non.
D'autant plus que le deuxième, malheureusement, cette affaire est encore tellement pour la famille.
Elle est sous les feux judiciaires, et c'est extrêmement important. Et si on peut parler et évoquer les techniques qui peuvent être utilisées, ce n'est pas le moment de confondre les métiers que nous faisons avec des faits divers.
Bien sûr. Mais vous écrivez néanmoins que, comme un policier, un médecin légiste est un enquêteur.
Ah, c'est exact. Il doit avoir un petit peu ce sens de l'enquête, cette recherche de la vérité qu'il va essayer de retrouver, non pas par des aveux ou en recoupant les différentes pièces des procès-verbaux qu'il a pu recueillir, mais en assemblant des détails scientifiques, des éléments, la forme d'une plaie. Bref, tout un ensemble de choses qui existaient déjà et qui s'est constitué et est simplement un peu plus modernisé aujourd'hui. Mais nous avons eu de grands prédécesseurs et le docteur Paul en était un.
Alors nous allons parler de ce monsieur qui, on le disait que c'était le monsieur qui avait fait 100 000 autopsies. Il en a peut-être même fait plus.
Alors, c'est le surnom que lui donne détective. Alors, détective de la première version,
de la grande époque. Celui de Joseph Kessel.
Absolument, c'est le moment où Joseph Kessel et Georges Simenon collaborent à ce détective qui est mis en place par Gallimard. Et on lui donnait cette qualification. Alors, sans doute a-t-il fait beaucoup, beaucoup d'autopsies lors de la Première Guerre mondiale, parce qu'on le sait peu pour lui, il a été l'homme qui a autopsier tous les gazés pour essayer de savoir de quoi il décédait et essayer de trouver des moyens de protection devant cette terrible arme qui était celle des gaz pendant la guerre de 14.
Et c'est un personnage, bon, on peut dire haut en couleur sur certains aspects. Il élevait des teckels, par exemple.
Ah non, des coquères.
Soyons très précis,
vous aurez réprimandé. c'est effectivement un personnage assez truculent qui s'occupe totalement de médecine légale et qui a deux passions dans la vie. Une qui est la gastronomie, les membres du club des sangs.
Qui n'existe peut-être plus d'ailleurs.
Qui ne doit plus exister, mais qui était un club de gastronomes.
Parce qu'avec les diététiciens aujourd'hui, c'est mal vu.
Il serait moins en vogue. Mais il est tellement connu dans ce registre qu'on invente une recette pour lui chez La Pérouse, qui n'est pas un mauvais endroit, et qui est une recette de canard au sang qui va s'appeler le canard à la docteur Paul, qui était un des plats phares des années 30.
On ne sait pas s'il est toujours servi.
Je ne pense plus qu'il soit à la carte, mais ils ont dû garder effectivement la recette. Et puis sa deuxième passion, ce sont les coquères. Il va être le premier club de cette race de chiens. Et pour les élever, il va trouver un endroit absolument délicieux qui est un village dans la forêt de Compiègne qui s'appelle Vieux Moulin, où il va trouver une grande maison tout à fait capable de recueillir son élevage. Et c'est pour ça qu'il y a un lien et que sa fille est devenue mère d'ailleurs de ce village en forêt.
Très bien. Parmi les personnes, on va parler de certaines de ces, je ne vais pas dire victimes, puisqu'elles étaient déjà mortes au moment où ils s'en occupaient, mais il y a eu, par exemple, Paul Doumer, le président, on va en parler de ce président. On va surtout parler de son assassin, si vous le voulez bien, parce que c'était un personnage. Il y a eu Louis Renault, bon, qui a été tué vraisemblablement par, on peut dire, par le Parti communiste dans sa prison, plus que vraisemblable.
Oui, il se retrouve, puisqu'il va exercer, le docteur Paul, il exerce le grand exercice qu'il a, c'est 1910-1950, il va continuer jusqu'au 1960, mais effectivement, il va se retrouver dans tous les remous de la société et tous les faits divers. Et puis dans les remous de la société, il passe quand même deux guerres mondiales dans lesquelles il est sollicité et va se retrouver devant des choses absolument extraordinaires.
Il y a eu avant Bono.
Première grande
Choisi le roi qu'il a été tué.
Oui, première grande histoire. Il commence à être connu. Il vient, ce docteur Paul, il vient de Boulogne-sur-Mer. Et être médecin légiste à Boulogne-sur-Mer, c'est pas extraordinaire. Il est fils d'un haut magistrat, qui est un président du tribunal. Et il va commencer sa carrière à Paris, à l'ancienne morgue qu'on ne connaît plus, qui était sur les bords de Seine, mais pas à l'endroit où on la connaît, pas Place Mazas. Et sa première histoire qui le fait vraiment connaître, c'est celle de la fin de la bande à Bono. Il va même assister à l'assaut, à Choisy le roi, l'assaut qui est donné. Il est ami d'un commissaire qui va être abattu par un des hommes de Bono. Il est déjà complètement dans le mouvement et c'est lui qui fera les autopsies et les examens de Bono et de ses complices.
Jean Jaurès aussi, mort très célèbre, la veille de la déclaration de guerre de 14.
C'est un personnage extrêmement connu que Jean Jaurès, et on va donc solliciter le médecin le plus connu et le plus disponible, et c'est lui qui va au Café du Croissant, qui va faire ce qu'on appelle la levée de corps. Ce n'est pas une levée de corps qui est dans l'ordinaire, puisque c'est celle de Jean Jaurès lui-même, et c'est aussi le début de la guerre de 14.
Alors, aussi bien en ce qui concerne Jaurès que Paul Doumer, on peut s'intéresser également à leurs assassins, qui sont vraiment des personnages assez bizarres. Bon, en ce qui concerne, c'était vilain pour Jaurès. Il y a eu un reportage, une émission sur la chaîne d'Histoire ou Toute l'Histoire très récemment. Bon, on ne sait pas s'il a été téléguidé ou pas, d'ailleurs, c'est un peu un mystère. Mais il a été acquitté et c'est la veuve de Jaurès qui a dû payer les frais du tribunal. Ça, c'est quand même assez fort.
Oui, c'est assez extraordinaire parce que vilain, sans doute poussé à commettre ce crime contre Jean Jaurès, qu'il accuse d'un pacifisme et d'une alliance avec l'Allemagne, va rester en prison le temps de son jugement, mais le temps de son jugement est également aussi celui de la Première Guerre mondiale. Et à la fin de cette Première Guerre mondiale, avec le 1 700 000 morts en France, les milliers de blessés, on en a assez du sang, on en a assez. Et finalement, il va être jugé, mais il n'ira pas à la peine capitale, ça ne va pas être exécuté, et Villain restera en prison.
Et il y a donc également Gorgoulov, c'est celui qui a assassiné Doumer, et qui a blessé en même temps un écrivain, Claude Farrer, qui avait essayé de s'interposer. Et Gorgoulov, lui, est-ce qu'on aurait vraiment dû l'exécuter? Parce qu'il était visiblement complètement fou.
Oh, Gorgoulov est
il avait fondé un parti dont il était le seul membre.
Oui, il a tous les signes d'une agitation et d'éléments où effectivement, à l'heure actuelle, si une expertise psychiatrique était bien menée, on le déclarerait
irresponsable.
Il n'empêche qu'il a tué le président de la République et je crains que même si la psychiatrie n'était pas si mauvaise à l'époque, il a été un peu nécessaire pour l'opinion publique. L'homme qui a tué le président de la République...
Ça s'est fait un délai très rapide après la mort d'ailleurs.
Nous sommes allés, enfin le, le, entre son arrestation, très violente aussi, hein, lui est très violent, mais l'arrestation est très violente, les premières photos qui sont prises de lui, on sent qu'il a été
passé
interpellé.
À tabac, comme on dit.
Oui, sans doute, sans doute. Le mot est juste parce qu'on le voit quand même avec piètre figure sur les premiers clichés. Et puis,
on voit sur un des clichés un membre de la police qui se penche pour lui scruter le visage. J'ai encore cette photo en mémoire.
C'est exact, c'est exact. Et là, il est beaucoup moins dynamique. Il faut avouer que, vu les photos, il a dû effectivement recevoir un bon nombre de coups à la suite. On comprend le scandale et effectivement, Claude Farrère s'était interposé pour éviter les conséquences fatales. Et la mort du président Doumer a été en plusieurs temps, on a essayé de le sauver. Il était à l'hôpital Lariboisière.
Non, à Beaujon.
À Beaujon. À Beaujon. À Beaujon, vous avez raison. Et le docteur Paul allait s'enquérir des nouvelles et aussi apporter les éléments médico-légaux au fur et à mesure de l'agonie du président, qui malheureusement n'a pas pu être sauvé.
Un autre personnage. Alors, on peut se poser des questions, savoir si l'autopsie aurait pu résoudre. Est-ce que l'autopsie était vraiment bien faite ou est-ce qu'elle a été truqué, je ne sais pas. Il s'agit de Stavisky. On l'a tellement dit qu'il avait été assassiné et non pas suicidé.
Ah, Stavisky, c'est une immense histoire. Donc, cette immense histoire qui fait qu'elle va être à l'origine du 6 février 34, donc des émeutes bien connues.
Il y a encore eu bien des morts, d'ailleurs.
Bien des morts. Et là, le scandale est tel qu'on va demander au docteur Paul de faire non pas l'autopsie, mais la contre-autopsie. Contre-autopsie qui arrivera à indiquer qu'il est suicidé. Ceci dit, pratiquement, entre quelqu'un qui vous tire dessus à quelques centimètres et vous-même qui vous tirez dessus à quelques centimètres aussi, la différence est assez difficile à faire et il n'avait pas à l'époque toutes les techniques, notamment pour identifier correctement de la poudre ou avoir des éléments d'imagerie telles qu'on les aurait aujourd'hui.
Mais il y avait un journal, je crois, qui avait mis qu'il s'était suicidé avec une arme à un mètre de distance, quelque chose comme ça, pour remettre en doute le suicide.
On l'a mis, ce docteur Paul, puisqu'il est dans des histoires extrêmement particulières, on le met souvent sous les... non pas sous les feux des caméras, mais sous les lignes de la presse. Il a eu des scandales, et des scandales assez importants, lorsqu'il va se prononcer sur la mort de Philippe Daudet, qui est une histoire particulièrement...
Mort dans troublante. Un taxi, apparemment. Bon.
Mort dans un taxi, suicide dans un taxi. Évidemment, l'Action française de l'époque soutient la thèse qu'il a été...
dont son père, Léon Daudet, qui était le responsable du journal.
Père Léon Daudet. Et il y a là une campagne de presse telle qu'on l'imagine. Et le docteur Paul en prend pour son grade avec une histoire où, effectivement, la thèse du suicide ne peut pas être écartée.
Nous parlions de folie en ce qui concerne Gorgoulov. Un personnage aussi, alors là, qui a tué nombre de personnes. Comment a-t-il réussi à venir dans votre profession? C'est le Petiot, qui était pourtant considéré comme malade mental avant même d'être médecin.
Alors, il est terrible, ce docteur Petiot. C'est vraiment un docteur Satan. C'était le surnom que lui donne la presse, mais elle n'a pas tort. D'ailleurs, il a un parcours d'escroquerie multiples, diverses et variées, qui commence dans Lyon, d'où il va devoir partir
très
rapidement.
Il était maire de sa ville, en plus.
Il a été maire de sa ville.
Villeneuve-sur-Yonne, c'est ça ?
Oui, et il arrive à en être chassé parce qu'il y a des scandales médicaux. On est au début des années 30. Et il ne fait pas mieux en revenant à Paris, où il va inventer des techniques de soins par le radium.
Pour la constipation également.
Il est absolument à faire
sa carte de visite était, à ce qui paraît qu'elle était lue lors de banquets de médecins, tellement c'était...
Oui, exubérante. Elle arrivait même à faire vraiment rire, mais c'est aussi un fournisseur à l'évidence là, de stupéfiants. On vient se fournir en drogue et notamment en opiacés avec les ordonnances du docteur Petiot qui ont une certaine célébrité.
Mais il avait quand même été reconnu malade mental, il avait été réformé à cause de cela ?
Oui, le service de santé militaire l'avait réformé, il n'avait pas eu tort. Il n'empêche qu'il continue après cette espèce de carrière tout à fait sordide et qu'il va caractériser à la fin par alors non seulement les morts multiples qu'il exerce, mais aussi par son entrée dans la résistance.
Oui. Nous allons laisser passer un message, si vous le permettez.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Je rappelle que je reçois le docteur Bernard Marc pour De sang et de noirceur et pour Le sang, le crime et le pouvoir, tous deux parus chez Emma Éditions. Oui, on parlait du docteur Petiot et on peut toujours voir l'œilleton par lequel il regardait agoniser ses victimes, ce qui prouve aussi qu'il avait vraiment un côté sadique. Ça se trouve au musée de la police qui est dans le commissariat, au dernier étage du commissariat du 5e arrondissement.
Pour l'instant, il est toujours là. Il est possible qu'il déménage et il est question qu'il déménage vers la conciergerie. Mais effectivement, cet œilleton par lequel il devait regarder agoniser dans cette espèce de petite pièce triangulaire qu'on a retrouvée dans son hôtel particulier, endroit où il devait voir agoniser les victimes, peut-être leur administrer des gaz, on ne sait pas trop quel était le mode d'exécution de ses victimes.
Bah, son supposé réseau de résistance, c'était Flytox, le nom qu'il lui avait donné.
Absolument, il avait trouvé ce nom extraordinaire et il s'était inventé un parcours dans la résistance, expliquant que tous ceux qu'il avait tués étaient en fait des collaborateurs notoires dont personne n'avait jamais entendu parler.
Oui, d'ailleurs. Mais il y avait des habits d'enfant, c'est ça qu'il a perdu d'ailleurs.
C'est cela, et effectivement, lorsqu'on reprend tous ceux qui lui ont fait confiance, eh bien, il y avait aussi beaucoup d'Israélites qui essayaient de se sauver, auxquels il promettait un départ sans doute vers l'Amérique du Sud, et qui passaient par des vaccinations un peu étranges, celles des produits qu'il leur injectait.
Personnalité d'avant-guerre qui a été très célèbre, enfin personnalité du fait de son procès, Violette Nozière.
Violette Nozière est une personnalité
on qui... On a même fait un film.
Oui, elle a été sous les images de Chabrol. Et cette Violette Nozière est en fait une jeune fille qui essaie de réussir par tous les moyens, y compris des moyens qui vont entraîner l'empoisonnement, réussi pour l'un et raté pour l'autre, de ses parents. Et avec une histoire qui est un peu trouble, où on imagine, où on retrouverait à l'heure actuelle un inceste très probable entre le père de Violette Nozière et Violette Nozière.
Ce qui est quand même bizarre, c'est qu'elle a été condamnée à mort, ce qui était plus rare pour les femmes que pour les hommes tout de même. Elle a été graciée, ensuite le maréchal Pétain a raccourci sa peine, et ensuite les présidents successifs également, jusqu'à ce qu'elle soit réhabilitée.
Oui, c'est arrivé peu à peu, et effectivement, peut-être que les circonstances, peut-être que son histoire personnelle ont beaucoup pesé dans la balance, et qu'on a vu en elle non pas une tueuse sadique, mais plutôt une victime essayant de se venger. C'est sans doute ça qui a amené à la reconsidération de son cas, y compris par des personnages qui se sont succédés. Il y a à la fois le maréchal Pétain qui diminue la peine et des présidents de la République une fois...
Jusqu'à De Gaulle qui la réhabilitation.
Absolument.
Elle s'est mariée, elle a eu des enfants et...
Elle a vécu une vie tout à fait normale.
Tout à fait normale. Mais chez les femmes, alors les femmes c'est plus le poison qu'autre chose pour tuer généralement.
Oui, le poison est largement utilisé. C'est une arme féminine qu'on retrouve et qui... ne manque pas d'avoir des effets certains, et certaines empoisonneuses laissent des traces.
Alors, était-elle empoisonneuse ou pas? C'est Marie Bénard, ça c'est le grand mystère.
Alors là, toute une question. Aujourd'hui, on pourrait la résoudre, mais cette question de l'arsenic et les façons de le doser sont très différentes. Et il est très possible que la contamination par la terre des corps après une inhumation ait pu occasionner ces taux d'arsenic qu'on avait, des choses assez compliquées, et les méthodes de diagnostic ont formidablement évolué, mais formidablement évolué à véritablement la dernière décade du XXe siècle, donc on en était loin.
Mais il y a même certains des experts lors de son procès qui ont été tournés en ridicule, parce que pour tel bocal, ils disaient c'est telle chose, et ah oui, c'est sûr, et l'avocat non, en fin de compte, ça vient pas du tout du même endroit.
Oui, il y a eu là des belles plaidoirie et des belles questions d'avocats qui avaient bien étudié le dossier, et des experts qui devaient prendre ça un petit peu à la légère. On en est loin aujourd'hui de la colorimétrie, puisque c'était la méthode où en faisant quelques réactions chimiques, on arrivait à avoir une couleur du broyat que l'on sortait, sur lequel on allait se prononcer. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui.
Alors nous allons parler de la dernière exécution publique, mais avant, il y a une chose qui peut paraître étonnante, c'est qu'obligatoirement à l'exécution publique, il y avait un médecin qui devait être là.
Oui, c'est un rôle assez terrible des médecins légistes de l'époque, et ils doivent constater le décès. Ce qui fait que notre docteur Paul qui va devoir constater des décès, va aussi être un témoin de grands décès dans l'histoire. C'est le dernier homme qui va voir Pierre Laval vivant. Il va même essayer de le réanimer.
Ben oui, puisqu'il s'était empoisonné.
Pierre Laval s'est empoisonné, donc on finit par le fusiller assis sur une chaise. Mais il est aussi le témoin de la mort de Brasillac. Il est aussi le témoin de nombre d'exécutions, puisque les procès et les condamnations vont être multiples.
Alors, il y a cette fameuse dernière exécution publique, c'est un nommé Weidmann, mais c'est là qu'on voit le côté un peu répugnant de la foule. Il y a un attrait pour ce genre de spectacle.
Alors, c'est une exécution absolument scandale. On va exécuter Weidmann à Versailles. C'est la dernière exécution publique, on ne le sait pas encore, mais des curieux ont acheté des places, des curieux dont le cinéma, puisque les actualités vont saisir cette exécution capitale, où on voit d'ailleurs le docteur Paul en costume sombre qui est à côté de l'échafaud. Et la foule va se presser une fois l'exécution commise pour tremper des mouchoirs dans le sang, essayer d'avoir des souvenirs absolument dérisoires et atroces de cette exécution. La sanction est claire, il n'y aura plus jamais d'exécution publique devant le scandale que cette exécution a occasionné.
Bien sûr. Dans toutes les personnalités qui malheureusement sont mortes, pas forcément exécutées, mais qui sont mortes de morts violentes et célèbres, est-ce qu'il y en a une que vous auriez peut-être dans votre... Ah, si j'avais pu, je sais pas, moi, Henri IV ou quelqu'un d'autre, est-ce que vous seriez bien vu en train d'autopsier quelqu'un de très célèbre comme cela?
Ah ben c'est toujours quelque chose qui nous rend véritablement très envieux. Il y a eu des autopsies célèbres, des choses assez extraordinaires. Alors, les autopsies et les examens des grands personnages sont absolument fabuleux. Vous citez Henri IV, mais le duc de Guise, reste effectivement des endroits où le médecin légiste aurait pu avoir son rôle à jouer. Il le joue d'ailleurs, ce rôle à jouer, depuis fort longtemps, parce que n'oublions pas qu'Ambroise Paré, outre-être chirurgien du roi, est le premier qui ait parlé de médecine légale et qui ait décrit les effets balistiques de l'arquebuse à l'époque.
Mais il a fait exécuter des condamnés à mort pour voir comment se passait le trajet, justement la trajectoire.
Nous avons un peu plus de sens éthique, mais effectivement, des personnages sont là. Alors n'oublions pas un autre légiste qui a laissé son nom, ou un moment a laissé son nom, qui est le docteur Louis. Le docteur Louis le laisse de deux façons. Le docteur Louis est celui qui va démêler l'histoire Calas. L'histoire Calas, qui est celle pour laquelle Voltaire a fait le traité sur la tolérance, et qui est un jeune homme qu'on va accuser son père de l'avoir tué, alors qu'il s'est pendu, suicidé. On va écarteler le père, c'est une exécution abominable, on le passe à la question, ce sera la fin de la question par Louis XV, et le docteur Louis explique que c'est une pendaison et non une strangulation. Et puis ce docteur Louis, parce que les idées humaines progressent, eh bien a l'idée d'un moyen pour faciliter ou du moins éviter la douleur du condamné, qui va s'appeler tout d'abord la Louisette, puis prendre le nom de celui qui en a fait juste la mécanique, parce que l'angle de coupe et la forme de la lame, c'est le médecin légiste, et le mécanicien de cet instrument s'appelle Monsieur Guillotin, et la Louisette deviendra la guillotine.
Alors il y a une légende qui dit que c'est Louis XVI qui aurait imaginé le fait que la lame soit en biais. On a vu ça assez souvent dans des films.
Alors,
mais c'est probablement une légende.
En tout cas, Louis XVI s'interroge sur le moyen le plus humain de donner la mort à des condamnés et fait réfléchir celui qui doit le mieux le connaître, et là c'est le docteur Louis, sur ce sujet. C'est assez drôle d'ailleurs, cette succession de prénoms chez les légistes, ça doit être une sorte de manie, le docteur Louis, le docteur Paul.
Et le docteur Paul, on le retrouve chez Simenon.
Oui, docteur Paul, c'est le grand ami de Simenon, et c'est celui qui donne les sujets des Maigret, puisque Simenon s'en inspire et ensuite brode la psychologie des personnages, mais il est véritablement cité sous son nom, et une petite plaisanterie était entre les deux, puisque le docteur Paul, qui monte les escaliers pour aider le commissaire Maigret, ben c'est un petit bonhomme essoufflé, un petit peu gros, un petit peu rondouillard, ce qui semble bien au personnage, mais il est barbu, alors que le docteur Paul était très fier de ses belles bacchantes.
Très bien. Ben, nous arrivons à la fin de cette émission, docteur Bernard Marc. Je rappelle le titre de vos ouvrages, De sang et de noirceur, et Le sang, le crime et le pouvoir. Tous deux sont parus donc dans la collection SK aux éditions Emma Édition. Et nous allons terminer en musique. Alors, j'ai choisi une chanson sur un meurtre qui a été chantée par Philippe Clay. Donc, le personnage aurait pu être autopsié puisqu'il s'agit du noyé assassiné. Je vous remercie à vous.
Merci infiniment.
Tout seul au fond de la Seine, je commence à m'ennuyer. En vain, je me démène pour pouvoir me libérer. 10 ans dans la même pose, je vous assure que c'est long. Depuis que je me décompose, je fais peur aux poissons qui fichent le camp sans rémission. Je suis un noyé assassiné par un gars qu'en voulait à mon porte-monnaie. Je n'avais pas un centime, puis pour cacher son crime, il me jeta dans l'abîme. Et depuis, je m'abîme dans cette masse d'eau. Je suis un noyé assassiné, j'ai au cou un boulet m'empêchant de remonter. Parler d'une aventure, voilà 10 ans que ça dure. Avec ça je vous jure, pour une cure c'est une cure. Moi qui ai horreur de l'eau. Encore, si on m'avait flanqué dans un tonneau, au lieu d'eau, il y avait eu du vin clairet. Mais non, mes chairs en deviennent molles. Je me désole et je m'étiole, la Seine ne charrie pas l'alcool. Vous qui moyez, plaignez, plaignez, tous les noyés assassinés. Je vivais dans ma famille, j'étais un bon garçon. Je courais après les filles, en troussant leurs jupons. Hélas, dans ma retraite, y'a rien de folichon. Pas une mignonnette, rien que des petits poissons qui fichent le camp sans rémission. Je suis un noyé assassiné par un gars qu'en voulait à mon porte-monnaie. Poussé par cette crapule, voilà que je bascule dans l'eau qui fait les bulles et me v'la ridicule avec mon air crevé. Je suis un noyé assassiné, j'ai au cou un boulet m'empêchant de remonter. Vous parlez d'une histoire, dans cette immense baignoire, je n'ai que des déboires, moi qui mangeais sans boire, maintenant je bois sans manger. Parfois, d'inutiles hameçons croyant pécher viennent s'accrocher dans le fond de mon pantalon. Ou bien une herbe un peu trop fine, familièrement, grossièrement, vient se loger dans mes narines. Vous qui moyez, plaignez, plaignez, tous les noyés assassinés, plaignez, plaignez.